France Culture.
Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission gourmande de France Culture qui marie saveurs et savoirs, qui active papilles et méninges autour d'un fait culturel majeur, l'alimentation. Des bonnes choses qui font aussi dialoguer les cuisines grâce à la présence du chef Maurice Acco qu'on retrouvera comme chaque semaine à 12h25 pour sa chronique. Cher Maurice, bonjour.
Bonjour Caroline.
Qu'est-ce que vous nous promettez de bon ?
Des céréales.
C'est bien, c'est lié à notre sujet du jour, un sujet d'actualité, crise du modèle agricole, Mercosur, mais pris de l'autre côté du spectre, à l'autre bout, du côté de l'alimentation, de nos assiettes, quelles conséquences pour notre alimentation ?
Aujourd'hui, il y a des éleveurs dans tous les secteurs qui meurent parce que le prix de vente pour l'éleveur lui-même, il est en dessous de son prix de production, on s'en va le chercher ailleurs. Non, c'est plus possible, stop. Faut arrêter, à un moment donné, faut couper les robinets.
Bon courage les gars ! Ils travaillent nuit et jour, ils ont pas de vacances, ils ont des revenus de misère. Je suis très choquée. Et leur combat est très juste parce que ce Mercosur, il devrait pas passer.
Dans beaucoup de filières, on demande davantage de faire des efforts au niveau environnement. Et en parallèle, on va aller chercher des produits à l'autre bout du monde pour une histoire de prix en fait. On est en concurrence mais avec des gens qui produisent ailleurs en Europe ou dans le monde. Mais pas aux mêmes conditions et au même coût de production. Donc c'est là que ça va pas. Ça s'appelle de la concurrence déloyale.
Touchez pas à nos agriculteurs !
On est très inquiets quand même parce que demain, on sait même pas comment installer des nouveaux jeunes avec des inquiétudes pareilles. Sur le renouvellement des générations agricoles, tout est en baisse. Si on se sort pas de salaire à la fin du mois, comment on peut vivre ?
Ça devient très très inquiétant parce que si demain ils signent, on peut, nous les paysans, on va faire quoi ?
Ouais.
On va faire quoi ? Avec de la viande à 3 euros. Et donc il y a un moment, il y en a marre, on va continuer jusqu'à quand ? Abattre toutes les vaches de France, abattre tous les paysans, parce que c'est de l'abattage de paysans aujourd'hui. Hein. À faire ça, on abat les paysans aujourd'hui.
Bonjour Yuna Chifolo.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes sociologue de l'alimentation, directrice de recherche à l'INRAE, qui porte bien son nom, l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement. Vous êtes, vous, spécialiste des circuits alimentaires durables et petite fille d'agriculteur. Ça veut dire que vous suivez depuis longtemps ce système, vous le connaissez bien, vos grands-parents ont été, et vous nous l'avez dit, de cette façon-là forcés à la modernisation et vous avez connu aussi des grands-parents en détresse, donc vous comprenez ce qui se passe aujourd'hui ?
Oui, justement, ils n'ont pas pu suivre. Comme beaucoup d'agriculteurs qui sont lancés dans une course à la compétitivité sans en maîtriser les règles, sans même en comprendre finalement le jeu, puisque eux, ils font des efforts tous les jours. On a quand même en France une agriculture qui maintient un niveau de qualité important, qui se donne des défis aussi, des défis de transmission, puisqu'en essayant justement de garder un modèle quand même d'exploitation familiale qu'on a pu perdre ou ne jamais connaître dans d'autres pays. Et pour autant, ils sont jetés dans une concurrence déloyale qui vient banaliser l'alimentation, puisque dans ce Mercosur, finalement, on accepte de troquer de l'alimentation contre des voitures, contre des biens non alimentaires. Alors que l'alimentation, c'est vital, ça nous construit. Ça nous définit, c'est notre identité, c'est tellement impactant pour notre santé et nos paysages qu'on ne peut pas comprendre, qu'on comprend mal, et eux en particulier, que justement on place l'alimentation dans des circuits commerciaux avec d'autres types de produits. Et donc c'est là qu'on retourne sur un débat qui est quand même ancien, celui de sortir l'alimentation justement de l'Organisation mondiale du commerce pour en faire une exception. En particulier en France, donc cette exception alimentaire comme, au même titre que pourraient l'être des biens, que le sont des biens culturels.
C'est peut-être aussi ce qui explique que cet accord du Mercosur a mis 25 ans avant d'être signé. Et certains voulaient sortir l'alimentation de l'accord, d'autres l'y mettre avec un certain nombre de conditions. Est-ce que vous diriez, Yuna Chifolo, malgré tout, que du point de vue de notre alimentation, on va être gagnant ou perdant ?
Alors, Il y a des débats, hein, puisque certains disent que factuellement, certaines filières pourraient être bénéficiaires, notamment sur les produits du vin, enfin sur les produits laitiers. Alors c'est pas si évident, puisque d'autres études montrent que la France, l'Europe seraient pas si gagnantes que ça, y compris sur ces secteurs-là. Mais surtout, enfin de manière générale, de toute façon, on n'est pas gagnant quand on accepte de s'alimenter avec des produits dont on connaît finalement. Parce que qu'est-ce qui va se passer, c'est qu'à la fin, en fait, de toute façon, le consommateur n'aura pas le choix puisqu'il n'y a pas de transparence. Il n'y a pas peu ou peu de transparence sur la provenance des produits. Donc de toute façon, on n'est pas gagnant quand justement on vient à nouveau acter d'une concurrence déloyale, acter que du manque de transparence dans l'alimentation vis-à-vis non seulement de la provenance mais aussi des conditions de production.
Il y a une question de prix malgré tout. Quand on dit qu'on est gagnant ou perdant, c'est aussi en termes de prix. Là, on entendait les agriculteurs dire que c'était un combat perdant pour eux parce qu'on va chercher des produits loin, tout simplement pour moins cher, mais en même temps, de l'autre côté, du côté des consommateurs, justement, on peut comprendre qu'on ait besoin, qu'on ne puisse pas se payer des produits chers, et donc qu'on aille chercher, si possible, des produits pour manger, quelque chose, et que ce soit des produits accessibles. Vous citiez les produits laitiers et les viticulteurs, on va écouter d'ailleurs la parole de viticulteur, le coprésident des vins de Bourgogne, François Labbé, et un viticulteur dans la Drôme, Michel Chapoutier.
D'autres filières agricoles, discrètes ces dernières semaines, sont favorables à ce traité. Les produits laitiers, les spiritueux, les vins, les taxes passeraient pour elles de 35% maximum aujourd'hui à 0%.
Une baisse des taxes signifierait, surtout pour le Brésil, qui est un pays qui est en forte croissance et dans lequel il y a une classe moyenne qui est tout à fait intéressée par ce que nous produisons, ça faciliterait effectivement fortement la vente des vins de Bourgogne.
Nous avons su faire dans le cadre des vins et spiritueux des accords où nous avons promu des standards internationaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je prends le Brésil, il est rentré dans le monde du vin avec les mêmes produits que nous, avec les mêmes contraintes que nous. Et ce que je trouve regrettable, c'est que les autres pans de l'agriculture ont un train de retard sur le travail que l'on a fait, où on est à égalité de traitement dans les vins et spiritueux. Alors, toute la viticulture, tous les spiritueux sont dans la logique de défendre le Mercosur parce qu'on en a besoin. On perd des parts de marché sur la Chine, on perd des parts de marché sur les États-Unis parce que nous sommes des victimes collatérales des différentes guerres commerciales. Mais je comprends aussi que les autres pans de l'agriculture qui ne se sont pas mis au même niveau d'entente au niveau des accords internationaux sont aussi pénalisés.
Vous êtes sociologue, hein, Yuna Chifolo, et j'aimerais bien justement vous poser une question sur cette sociologie assez complexe finalement, à la fois du monde agricole, et tout à l'heure on entendra les distributeurs, et puis on va entendre des chefs, donc c'est toute la chaîne alimentaire qui est concernée. Quand vous entendez cela, quand vous entendez tout à l'heure l'idée de concurrence déloyale que vous reprenez à votre compte, comment faire la part des choses, comment s'y retrouver finalement quand on est nous, consommateurs, nous, mangeurs, et qu'on entend ces prises de parole qui sont extrêmement contradictoire.
Oui, je vous comprends moi aussi que justement il y a beaucoup de confusion, enfin en tout cas des débats contradictoires. Ce qui est important de savoir, c'est que finalement quand vous mangez, enfin l'aliment qui vient dans votre assiette, qu'est-ce qui principalement son prix, il est lié au coût du travail derrière. Et donc on a la chance en France justement de ne pas avoir cédé à diminuer le coût du travail des ouvriers agricoles. Alors même si justement parfois ils font appel à des travailleurs détachés, enfin il y a toute cette histoire des travailleurs détachés qui ont payé beaucoup moins cher que les minima sociaux en France. Mais c'est pas du tout la solution qu'on souhaite. Et justement, il est important qu'on sache que, à travers ce qu'on mange, eh bien, on défend l'emploi, on défend des conditions correctes de travail. Et c'est aussi où là, les règles sont pas du tout les mêmes, y compris en Europe, en Europe de l'Est, c'est bien le coût du travail est bien moindre. Et donc, c'est pas en fait, ça se comprend très bien que justement un produit d'Europe de l'Est qui arrive dans votre assiette, il sera moins cher. Mais derrière ça, on soutient des conditions de travail qu'on n'accepterait pas pour nous-mêmes et pour nos enfants.
Coût du travail et puis également façon de faire, puisque là il est aussi question dans ce qu'on va importer de produits bourrés de pesticides qui sont interdits en France et en Europe. Alors c'est une forme d'hypocrisie parce qu'on importe aussi déjà un certain nombre de produits qui vont des pesticides, mais enfin quand même on a des normes, on a des règles en Europe, on a des règles en France, et on craint aussi l'arrivée de produits qui n'ont pas les mêmes normes. Ça fait aussi partie d'un certain modèle. Vous disiez tout à l'heure, l'alimentation, c'est un rapport à l'alimentation en fait qu'on défend. C'est bien plus large qu'un simple produit comme une chaussure, puisque ça fait partie du Mercosur, ou des voitures.
Oui, c'est bien plus large, et notre rapport à l'alimentation, c'est ça, c'est que ces produits, il y a des produits qui sont interdits, notamment, y compris au Canada, enfin en France, mais y compris en France, déjà on importe beaucoup de lentilles du Canada, parce qu'il y a ce fameux appel à manger moins de viande, et ça c'est complètement, manger moins de viande industrielle, parce qu'on a besoin de la viande, on a besoin d'élevage paysan dans les territoires pour l'agroécologie, la transition agroécologique. Mais par contre, il est vrai qu'il faut rééquilibrer les assiettes, et donc on fait venir de la lentille du Canada, qui est produite avec plein de produits interdits en France. Et donc notre fameux plan protéique et notre fameuse végétalisation des assiettes, elle passe justement par le soutien à des filières qui ne respectent pas nos normes environnementales.
Alors je disais qu'on a envie d'entendre aussi à l'autre bout du spectre les restaurateurs, les commerçants de commerce de bouche. Dans les chefs engagés, on a cherché, il n'y en a pas énormément qui se sont prononcés, qui se sont exprimés. Il y en a un, malgré tout, et pas des moindres, puisque son restaurant est 3 étoiles au guide Michelin. Il est chef avec son père Régis du restaurant Les Maisons Marcon, qui dit bien son nom, à Saint-Bonnet-le-Froid en Haute-Loire. Et c'est Jacques Marcon qui est avec nous en ligne. Bonjour Jacques Marcon.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous par téléphone. Vous faites partie des rares chefs qui se mobilisent et pourtant vous dites que la mobilisation des chefs, elle est non seulement nécessaire mais indispensable. Vous avez montré, vous, un soutien très clair aux agriculteurs en colère, notamment en manifestant à leur côté. Vous étiez même en tenue professionnelle. Pourquoi, pour vous, cet engagement est-il important en tant que chef?
Parce que je pense qu'en tant que, restaurateur, en tant que chef cuisinier, on vit un peu la même chose que dans le monde agricole. On est en train de se faire bouffer, hein, je puis le dire, c'est le mot, par cette cuisine qui n'existe plus. Hein. Nous, on a une restauration, vous savez, plus de 50% de la restauration maintenant n'est plus faite maison. Donc, c'est un peu cet ultralibéralisme qui est en train de nous bouffer. On est en train de perdre notre savoir-faire. Et en agriculture, on est en train aussi de perdre un savoir-faire parce qu'on veut pousser nos agriculteurs à produire toujours plus, à être productivistes, avec des normes sociétales, comme on l'a dit tout à l'heure, qui ne sont pas les nôtres. Et on est en train de perdre notre savoir-faire qui a fait la réputation de nos produits français. Et comme disait M. Paul Bocuse, sans bons produits, pas de bonne cuisine. Je crois que le constat est clair, il faut qu'on se batte avec eux.
C'est une exigence de qualité, c'est une exigence de goût, c'est une exigence qui concerne la santé également pour vous?
Il y a un petit peu tout. Il y a la qualité, c'est le goût, c'est la santé en fait. Hein. Les trois se rejoignent fortement. Moi, je vois toutes les appellations. On a la lentille du Puy chez nous, on a le fin gras du Mézin, on a plein de produits comme ça qu'on travaille depuis des années sur les appellations. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi nourrir le quotidien. Et on fait plus de 7 millions de repas dans les cantines scolaires en France tous les jours. Je crois qu'il y a un gros travail de fond à faire là-dessus. Moi, je pense que le monde agricole doit vraiment avoir une initiative beaucoup plus ambitieuse avec... pour les territoires, pour la suite, avec une politique plus ambitieuse, parce qu'en ce moment, on est en train de casser nos filières, tout simplement. Et le Mercosur, c'est symptomatique de ce qui est en train de se passer. Toujours produire moins cher, moins cher, moins cher. À force, eh ben, on va perdre notre agriculture. Moi, ce que je remarque, par exemple, un exemple sur nos territoires, c'est qu'un des rares moyens de gagner à peu près sa vie correctement sans avoir trop de contraintes, c'est de faire du méthane en ce moment. Donc, il y a beaucoup de méthaniseurs qui se montent. On met nos céréales pour faire de l'énergie. Le jour où on ne produira plus notre alimentation, on perdra notre souveraineté. C'est un mot qui est très à la mode, mais je crois qu'il faut être très vigilant là-dessus.
Est-ce que vous dites, Jacques Marcon, que c'est important de multiplier aujourd'hui les ponts entre la restauration et l'agriculture? Votre travail, et vous le rappelez, votre travail de chef s'articule avec les producteurs locaux, en l'occurrence, et les bons produits dont vous parlez. Mais je crois que l'important aussi, c'est justement de faire des ponts pour montrer qu'on est tous et toutes concernés par ce qui se passe.
Tout à fait. Moi, vous savez, dans mon restaurant, je travaille avec plus d'une centaine de producteurs, d'éleveurs, tous locaux, hein, quasiment. Le poisson vient de Bretagne, hein, mais c'est vraiment du local. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de liens avec le monde agricole, il n'y a pas assez de liens. Je vous parlais des cantines, pour donner une information. Mon père est en train de recréer une formation pour les cantiniers, pour les chefs de cantines scolaires, qui n'existent plus depuis plus de 30 ans en France. Voilà, on ne sait plus faire à manger dans les cantines. Alors, je dis pas qu'on mange mal dans les cantines, parce qu'il y a plein de chefs qui se démènent, mais il n'y a plus de formation en France, vous voyez. Et moi, je vois au niveau des...
Oui, ça veut dire que ce que vous défendez aussi, c'est pas seulement la haute gastronomie. C'est pas votre corporation des gastronomes de France et des chefs étoilés. Ça va sur tous les restaurants, des gastronomes aux restaurants modestes, y compris la restauration et surtout la restauration collective.
que je défends, c'est le cuisinier, celui qui se lève le matin, qui cuisine pour faire plaisir à des élèves, pour faire plaisir à ses clients, pour faire plaisir à, dans une cantine scolaire, peu importe. Je voulais préserver vraiment ce geste, c'est-à-dire le cuisinier, voilà, qui n'achète pas des produits congelés tout prêts, parce qu'en fait, bah, ces produits, on sait, hein, les origines sont très douteuses. Ces viandes du Mercosur qui vont arriver sont mélangées, cuisinées dans nos grandes usines de l'agroalimentaire, et on ne sait même plus d'où elles viennent. Et on sait que pour la santé, avec tous les additifs, c'est pas très bon, c'est même très mauvais. Il y a beaucoup d'obésité en France, hein, qui arrive aussi. On a cette culture du produit en France, cette culture du bien manger. On n'est pas encore allé trop loin. Je pense qu'il est temps de pas de faire marche arrière, je dirais plutôt d'aller de l'avant, vers notamment une agriculture beaucoup plus saine pour l'environnement, parce que l'environnement, c'est les paysages, j'en parlais tout à l'heure. Mais aussi, ce qui fait la force de la France, c'est le tourisme. Le jour où on aura plus de beaux paysages, on aura plus de touristes également. Donc, voilà, c'est un ensemble, on est une chaîne, on est tous mêlés. C'est pour ça que je vous parlais de créer de ponts entre l'agriculture, la restauration et l'agroalimentaire. On a besoin aussi d'industriels vertueux qui travaillent les produits français. Ben, je pense que si tout le monde se met autour de la table, et la loi Egalim, elle est dans le bon sens pour ça, je pense qu'on peut faire encore des belles choses. Mais faire attention, moi ce qui m'inquiète, c'est que sous prétexte de rentrer dans ce monde de l'ultra-libéral où il faut se battre contre les Brésiliens, on est en train de casser toutes les normes environnementales, pardon. La loi du plomb va revenir sur le tapis. Et je crois que c'est très dangereux pour nos paysages, pour l'environnement, pour la santé, pour l'avenir de nos enfants, tout simplement.
Merci Jacques Marcon, chef du restaurant 3 étoiles Les Maisons Marcon avec votre père Régis à Saint-Bonnet-le-Froid en Haute-Loire, midi 16 sur France Culture.
Pour le patron de Carrefour, l'adoption du Mercosur, ou pas, l'impact est assez limité. Pourquoi ? Parce que quel que soit le texte, qu'il soit adopté ou qu'il ne soit pas adopté, la décision du groupe Carrefour, et d'ailleurs de mes confrères, c'est de s'approvisionner quasi exclusivement, voire exclusivement selon les filières, en produits français. 100% de la volaille, c'est français. 97% du bœuf, c'est français. 100% du porc, c'est français. On est approvisionné de manière locale.
Depuis toujours, Intermarché, sur son sourcing d'œufs et de poulets, n'est que made in France. Donc on n'a jamais fait le choix d'aller chercher la solution la moins chère qui serait d'aller à l'étranger.
Moi, je peux vous dire qu'en tant que distributeur, on ne sera pas importateur de poulets ou de viande, et encore moins dans les conditions qui ne respecteront pas ces clauses de sauvegarde. Mais pour ça, il faut qu'elles existent. Mm-hmm.
La première chose déjà, c'est que nous, on n'achètera pas de produits d'Amérique du Sud. À partir du moment où il y a les produits équivalents français, on n'en achètera pas. Quand on oblige des agriculteurs à produire avec un certain nombre de normes, de contraintes qui sont lourdes, mais que des produits sont susceptibles d'arriver avec des contraintes moindres, c'est une forme de concurrence déloyale. Moi, je trouve que le Mercosur, c'est un peu le Shein de la concurrence déloyale.
Alors les distributeurs manifestement se sont passés le mot, alors on ne sait pas s'il faut les prendre au mot ou pas. Je vous vois un peu sourire tous les deux, Maurice Sacco et Yuna Chifolo, sociologue de l'alimentation dans ce studio. Si les distributeurs n'achèteront pas les produits importés, disent-ils. En fait, on a l'impression, Yuna Chifolo, que cette question de la souveraineté alimentaire est un peu le cœur de ce problème. Parce que au fond, on se dit, mais comment expliquer que nous ne mangions pas ce que nous produisons, ou plutôt que nous importions ce que nous pouvons produire nous-mêmes. Ça éviterait quand même que cette discussion et qui touche d'abord les chefs, d'abord les agriculteurs, ensuite les distributeurs, les industriels, les chefs, et finalement nous à l'autre bout du spectre, se posions toutes ces questions, non ?
Alors, c'est tant mieux si, justement, le Mercosur, il fait enfin émerger cette question, enfin, plein de questions, la question de la transparence, la question de ce qu'on mange, d'où ça vient, avec quoi ça a été fait, quelles sont les normes derrière, à qui ça profite. Mais c'est tant mieux si les distributeurs prennent des engagements qu'on espère qu'ils respecteront. Et donc, moi, j'invite justement les consommateurs, les citoyens à aller voir sur place. Alors, pour les produits bruts non transformés, c'est sans doute possible, et c'est sans doute, en tout cas, je sais que il s'agit surtout pas de les diaboliser, et tant mieux s'ils font des choses bien, que ils peuvent s'approvisionner en France et défendre des filières françaises. Par contre, pour les produits transformés, c'est beaucoup plus compliqué, puisque vous n'avez pas l'information sur les matières premières. Alors, en tout cas, dans peu de cas, il y a eu des enquêtes d'associations de consommateurs qui ont montré que justement, il n'y avait pas cette information. Et là, récemment, donc, il y a eu le pâté Enaf, enfin la marque Enaf plutôt, qui a été critiquée parce que il y avait de la langue de bœuf, d'origine d'Amérique du Sud. Mais là aussi, enfin, au moins, c'était marqué. Cette fois-ci, c'était marqué, et donc le consommateur, il a le choix aussi d'acheter ce qu'il. Mais c'est pas du tout le cas pour l'ensemble des produits, bien au contraire. Et donc, si enfin on peut faire avancer ce débat d'information du consommateur et ses actions concrètes d'information du consommateur. Alors certes, il y a une réglementation européenne qui est pas simple et qui doit bouger, mais la France peut aussi la faire bouger puisque notamment des produits marqués produits de France, vous pouvez dire un produit de France s'il y a eu justement une transformation substantielle sur le territoire français. Finalement, indépendamment de l'origine des matières premières agricoles.
Le problème supplémentaire, et on y revient toujours, c'est que malgré tout, de plus en plus de Français disent manquer d'argent pour bien manger, entre baisse du pouvoir d'achat et augmentation des prix. Et on a l'impression quand même que les agriculteurs et les consommateurs sont, pardon de l'expression un peu triviale, mais les dindons de la farce.
Oui, parce qu'en fait, on va justement exporter des produits de qualité, on importait des produits de moindre qualité, puisque c'est aussi des questions de prix, en particulier sur l'agroalimentaire, donc qui joue en tout cas peu le jeu, et donc il est important qu'on puisse aussi retravailler, essayer aussi de mutualiser des coûts. Enfin, il n'y a pas de fatalité à ce que l'alimentation soit chère, quand bien même, c'est vrai, il est important que nous, consommateurs, on se rende compte du vrai prix de l'alimentation. Donc on a sans doute trop lâché là-dessus, même si la France se maintient à peu près, parce qu'on dit c'est à peu près 16% de notre budget est consacré à l'alimentation, mais on sait qu'on est très contraint par ailleurs. Un produit de qualité, ça coûte. Par contre, il y a des solutions, après, collectives, pour essayer de diminuer les coûts. Mais ce n'est pas en faisant baisser le prix d'achat à l'agriculteur que, de toute façon, on aura une alimentation moins chère. Puisque, de toute façon, vous inquiétez pas, les intermédiaires prendront la marge et vous continuerez à payer cher des produits qui ne paient pas, qui ne rémunèrent pas les agriculteurs.
On a une deuxième chef avec nous en ligne qui nous a rejoint, Bérangère Fagard. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous par téléphone. Vous êtes aujourd'hui indépendante, mais vous avez eu votre propre restaurant, Célune, à Paris, de 2019 à 2025. Et vous coprésidez la communauté Écotable, qui prend toutes ces considérations à cœur, puisque avec Écotable, vous favorisez la coopération et le partage des bonnes pratiques entre tous les professionnels de l'alimentation. Quand vous avez écouté cette émission depuis le début, qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à ce que vous avez entendu?
Ben moi, je pense qu'effectivement, ce qui est difficile aujourd'hui, c'est que pour nous, enfin nous qui avons une profession qui est nourricière, on doit continuer à donner du plaisir aux gens en tant que restaurateur, restauratrice, et en même temps toujours penser effectivement à la chose principale qui est la santé. Et cet accord, en fait, il met une difficulté parce qu'il facilite effectivement l'arrivage massif de produits qui vont coûter très peu cher, et la restauration commerciale actuellement traverse quand même une crise assez importante. Il y a de moins en moins de clients parce que les gens ont moins d'argent, et pour nous on a beaucoup de travail, et donc c'est on nous fait porter la responsabilité de faire les bons choix pour garder les gens en bonne santé, et c'est un peu déprimant parce que je pense que c'est une responsabilité qui devrait être porté par les gouvernements. Et là, en fait, on fait culpabiliser et les consommateurs et les clients et les restaurateurs. Et nous, ce qui est très important et fondamental, malgré tout, c'est de prendre soin de toute cette filière, parce qu'en fait, nous, on peut vous faire à manger si effectivement la terre est en bonne santé, que les gens qui la travaillent sont rémunérés de manière juste et peuvent vivre de leur travail dignement, et que ces produits-là arrivent chez nous, qu'on les transforme pour vous servir un bon plat. Mais du coup, il y a toute une filière, je veux dire, ça englobe, c'est un cercle vertueux dont il faut prendre énormément soin. Et malheureusement, aujourd'hui, il est gravement mis en danger, et avec une responsabilité qui est portée sur les consommateurs.
Vous avez tenu, vous, un restaurant, donc le Célune à Paris, pendant 6 ans, dans lequel vous faisiez de la cuisine à base de produits locaux. Vous essayez d'aller chercher autour de Paris, autour dans l'Île-de-France, les produits que vous proposiez à vos clients. Vous avez fermé. Est-ce que ça veut dire que c'est pas viable? Est-ce que c'est difficile d'avoir à la fois une rentabilité et beaucoup d'éthique?
Il y a plusieurs raisons. Moi, ça faisait déjà 6 ans, dont 2 Covid, donc c'était quand même une période qui a été semée d'embûches. Mais c'est vrai qu'actuellement, il y a quand même une grosse difficulté à tenir un modèle économique viable. Si on veut respecter, si on veut pas faire de compromis sur notre éthique ou l'éco-responsabilité, si on veut respecter les horaires de travail, des salaires justes, des produits bien sourcés, avec payer au juste prix pour les producteurs, Et en fait, tout ça devient de plus en plus compliqué. Et c'est vraiment dommage parce que, en fait, pour moi, il y a un problème de priorité. En fait, si aujourd'hui on mettait l'écologie en priorité et qu'on comprenait qu'en fait, c'est pas le tout d'être riche, mais en fait, il faut quand même vivre longtemps et pouvoir promettre à nos générations futures qu'elles vivront sereinement, sans doute qu'on ferait d'autres choix.
Merci Bérangère Fagard. On espère quand même pour cette année que vous allez pouvoir travailler et faire votre métier avec le plaisir qui est le vôtre et qu'on entend malgré tout dans la passion avec laquelle vous vous exprimez. Maurice Acco, je profite du fait que vous êtes là avant de vous donner la parole pour vous parler des céréales. Ce que vous entendez, vous le vivez vous au quotidien ?
Ouais, on le vit au quotidien et surtout, c'est pas tant aujourd'hui, c'est plus le futur et l'avenir, moi je dirais, qui est plus inquiétant parce qu'on nous force un peu à faire un choix sur une équation entre la santé et la qualité des produits qu'on va manger et finalement les moyens qu'on va avoir. Donc si on prend un système pyramidal, on va dire qu'en haut, ça ira toujours bien et on pourra manger des ingrédients très chers mais très bons. Et tout en bas, bah, qu'est-ce qui nous attend ? Ça va être des produits ultra transformés pour pas cher et à ce moment-là... Il y a toute une partie de la population qui va se retrouver perdante, quoi.
Et c'est ce qu'on a envie d'éviter. 12h26 dans Les Bonnes Choses sur France Culture. Maury, vous nous parlez donc des céréales du Sahel.
Oui, totalement. J'avais envie de parler justement d'une culture agricole qui va au-delà du simple ingrédient alimentaire. Et je vais me pencher sur la culture des céréales au Sahel. Le Sahel subsaharien se positionne principalement sur 5 pays, le Mali, la Mauritanie, le Tchad, le Niger et le Soudan. Il marque une frontière entre le Sahara au nord et les zones de savane plus humides au sud. Le principal danger réside dans la désertification du Sahel, car le Sahara avance et menace tout un écosystème. Et c'est là que notre culture de céréales intervient. Car si l'agriculture semi-intensive et la culture surbrûlée ont participé à cette désertification, on voit aujourd'hui une véritable prise de conscience de l'importance de revoir ces cultures. Les céréales du Sahel, c'est le fonio, le sorgho et le mil. Ce sont des cultures qui sont progressivement abandonnées au profit de l'élevage de bétail, car difficiles, sur un sol aride, avec un rendement assez faible, mais totalement adaptées au climat local par leurs faibles besoins en eau. Mais aujourd'hui, elles reviennent en force, grâce au retour d'une technique traditionnelle nommée le zaï, qui consiste à concentrer l'eau et les nutriments autour de la plante cultivée en creusant des trous où l'on dépose du compost recouvert d'une petite quantité de terre au bord de laquelle on sèmera la céréale. En localisant l'eau et le compost, cette technique permet que les plantes profitent pleinement de la mousson et résistent aux poches de sécheresse. Cette technique permet de récupérer une terre dégradée tout en tirant une bonne récolte dès la première année. C'est une assurance de récolter de quoi vivre, quels que soient les aléas climatiques. Le tout en séparant les parcelles, en les quadrillant de rangées d'arbustes et de haies, qui permettent de revégétaliser le paysage et de retenir l'eau présente dans l'air, ce qui aide à faire ralentir la progression du désert, voire le repousser. Ces cultures renferment aussi un véritable sujet de souveraineté alimentaire, car ces pays sont pour la plupart totalement enclavés, sans accès à la mer. Ils sont donc totalement dépendants des importations de plusieurs matières premières de base, et ces céréales sont, avec l'élevage, parmi les seules ressources alimentaires cultivées par et pour la population locale. D'un point de vue nutritionnel, ces céréales ont l'avantage d'être sans gluten, ce qui pourrait être un vrai levier économique à l'export pour ces pays au vu de la hausse du marché du sans gluten en Occident. Et pour ma partie préférée, la cuisine, le fonio et le sorgho se travaillent comme une semoule. On peut facilement les intégrer dans plusieurs recettes, comme un taboulé par exemple. Et la farine de mil est excellente en dessert. Je vous conseille de faire un crumble banane et à la farine de mil, et vous m'en direz de nouvelles. Et pour finir, je dirais que les enjeux du Sahel sont pour moi un bel exemple de ce que l'agriculture peut et doit nous apporter, c'est-à-dire une sécurité alimentaire, un impact écologique et environnemental positif, ainsi qu'une source d'emploi fiable et durable.
Merci, bonne journée. Je crois que ce que vous dites résonne particulièrement aux oreilles de notre invité Yuna Chifolo, que je remercie d'être venue dans cette émission. Yuna Chifolo, directrice de recherche à l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement. Merci beaucoup encore une fois. Les bonnes choses étaient préparées avec Léa Varin. Toutes les informations, les adresses, les références sont à retrouver sur franceculture.fr. Pour télécharger cette émission et toutes les autres bonnes choses de la chaîne, rendez-vous sur l'application de Radio France. À la technique aujourd'hui, c'était Alexandre Dang. À la réalisation, Jean-Christophe Francis. Nous vous souhaitons une excellente journée à l'écoute de France Culture.